Créodyssée. Voyager et se perdre dans la création. Un podcast présenté par Géraldine Jojou et réalisé par Éric Blanc.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Créodyssée, le podcast consacré aux créateurs et aux créatrices, à leur motivation, à leur environnement, à leurs pratiques et à leur mode de communication. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce qu'en fait, nous n'avons pas d'invité, ou plutôt si, nous avons deux invités, Éric Blanc et moi-même, et nous allons en fait, non pas nous interviewer, mais plutôt nous faire un petit bilan de tout ce que nous avons fait au cours de ces différents épisodes. Alors bonjour Éric Blanc.
Bonjour Géraldine.
Ça fait bizarre, hein?
Ça fait bizarre, ouais. D'habitude je suis de l'autre côté, voilà. J'écoute, mais là je vais un petit peu parler.
Eh bien justement, t'as bien fait de le préciser parce qu'on ne nous connaît pas, puisqu'on est des interfaces, on est les intermédiaires, et on va se présenter chacun notre tour. Alors tu veux commencer Éric?
Je peux commencer si tu veux, ouais.
Tu es un artiste toi-même, tu as des pratiques artistiques.
Je suis un artiste moi-même, alors voilà, je suis auteur de chansons depuis une grosse vingtaine d'années, auteur-compositeur de chansons, arrangeur aussi, puis également auteur de deux romans qui sont sortis les deux dernières années, voilà. Et toi, en tant qu'artiste, Géraldine, tu peux nous faire
alors,
un petit
Moi, c'est pareil. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés,
oui,
hein, au travers de l'écriture. Hein. Moi aussi, j'écris des romans. Je fais du slam. J'appartiens à un collectif de slameuses qui s'appelle Les Drôles de Drame. J'ai pendant très longtemps animé une association où on parlait de littérature, mais je vais en parler dans pas longtemps, donc je vais pas trop en dire des choses. Donc on a tous les deux, c'est notre point commun, une pratique artistique.
Oui, c'est ce qui nous a donné envie d'ailleurs de parler de la création artistique, lever le capot et regarder ce qu'il y a dans ce moteur-là pour l'ensemble des artistes.
Alors ça nous amène à la première partie, le premier point qu'on veut aborder ensemble, c'est pourquoi on a fait ce podcast. Ça, c'est une vraie question.
Oui, exactement.
Alors, les origines, je vais commencer un petit peu parce qu'il y a une sorte de background. Avant de faire ce podcast, d'ailleurs avant, je ne connaissais pas vraiment les podcasts. Hein. Il faut remonter pour moi à 2020 pour que je connaisse vraiment les podcasts, le monde des podcasts. J'avais donc une association qui s'appelait La Fabrique à Lecture et tous les mois, enfin une fois par mois, j'invitais un artiste, alors plus particulièrement des écrivains, illustrateurs, éditeurs, à parler de leur parcours et à présenter un petit peu leurs œuvres. Et évidemment, le confinement est arrivé. Et le confinement, on l'a tous vécu, on sait très bien à quoi ça correspond, c'est le blocage des expressions artistiques et surtout des rencontres. Donc La Fabrique à Lecture, elle s'est arrêtée. Et je pense qu'il y a eu un double phénomène, en tout cas à titre personnel, c'est-à-dire que je me suis mise à écouter des podcasts, et j'ai trouvé ça incroyable, cette liberté de ton dans les podcasts, on pouvait y mettre ce qu'on voulait, c'était pas si difficile que ça à créer, entre guillemets. Il y avait une sorte d'accès, une disponibilité du média qui faisait rêver. Et en même temps, n'importe quel thème pouvait être abordé. Et alors, le deuxième aspect, c'est que, étant bloqué, je me suis dit, mais pourquoi je ne referais pas la même chose, mais par le biais du podcast? Et c'est là où Éric est intervenu.
Ouais. Alors, on se connaissait un tout petit peu avant. J'étais venu écouter quelques sessions de La Fabrique à Lecture. On s'était rencontrés aussi dans un atelier d'écriture que tu avais animé au Chemin Vert, peut-être un ou deux ans auparavant. Et voilà. Et moi, un soir, en regardant mes posts Facebook, je vois Géraldine qui demande est-ce que quelqu'un sait faire du montage audio dans le but de faire un podcast. Et moi, ça faisait déjà peut-être quelques temps, je me disais j'aimerais bien, alors pour moi c'était beaucoup plus vague que toi à l'époque, mais parler de la création artistique, savoir comment les artistes créent, quels sont leurs outils, leurs démarches surtout. Voilà, et donc quand tu as apporté ce thème comme ça, je me dis, là ça serait pas mal, c'est peut-être l'occasion. Et et comme j'ai un petit peu de savoir-faire en montage audio, je me dis, c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose d'intéressant.
Savoir-faire tout à fait indispensable à mes yeux, parce que franchement, je ne me sentais pas de partir sur l'aspect technique de la réalisation du podcast, et toi, tu avais déjà eu des expériences de montage audio, et tu t'y connais très bien en musique, etc. Donc, c'est vrai que ce n'aurait pas été faisable sans Éric. Et en plus, il y avait cette communauté d'intérêt pour le thème, pour la création
oui,
artistique,
ouais.
Et le fait que tous les deux, on a une pratique, on a déjà été confrontés à un public, on a déjà été confrontés à des regards sur la pratique artistique, et c'était vraiment enfin, sans qu'on y pense, hein, c'était vraiment l'union idéale.
Moi, j'aimerais déjà savoir, ça serait intéressant que tu nous expliques comment tu prépares tes interviews, comment tu contactes les gens et puis comment tu prépares tes questions avant qu'ils arrivent le jour de l'interview.
Alors, moi, j'ai pas trop de mérite de ce côté-là parce que, comme je disais tout à l'heure, la Fabrique à Lecture, j'en ai fait pendant 7 ans. Donc, pendant 7 ans, j'ai invité des personnes et j'ai petit à petit élaboré des méthodes d'interview qui commencent maintenant à bien porter leurs fruits. Je commence à être de plus en plus à l'aise, à être capable d'improviser par rapport aux questions que j'ai décidées. Donc là, pour moi, il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à ça. Je savais que j'allais reprendre un peu le même schéma d'interview. La différence, c'était que ce podcast qui est plus transversal allait me permettre de rencontrer des gens qui travaillent dans des domaines très différents.
Oui, tu n'avais plus seulement des auteurs, mais tu avais d'autres artistes.
Et ça me faisait complètement rêver, en fait. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a motivé à entrer dans le projet, c'est de me dire, oh, je vais rencontrer des gens qui créent dans d'autres domaines que l'écriture. J'adore l'écriture, hein, je suis passionnée par ça, mais j'avais envie de découvrir d'autres façons de créer et de me dire, bah, finalement, est-ce qu'on va retrouver les mêmes thématiques que j'ai pu entendre dans la Fabrique à Lecture. Alors donc là, la première étape, c'est chercher des informations sur les personnes, forcément. Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément un profil visible sur Internet. Ça peut parfois être gênant pour certains artistes.
Oui.
Voilà, ça peut être embêtant quand ils n'ont pas ni de site, ni de profil Facebook, etc. Parce qu'on a du mal à accéder à ce qu'ils font. Bon, mais après, c'est, de toute façon, avec l'interview type, vu que les questions sont assez ciblées sur les procédés utilisés par l'artiste, on finit par apprendre sur place ce qu'il en est, sans avoir besoin de faire des recherches. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit, trop de recherches sur l'artiste, parfois, tue la spontanéité de l'interview.
Oui.
Donc, il vaut peut-être parfois mieux pas trop chercher une question précise et laisser des questions ouvertes parce qu'il y a des choses inconnues qui peuvent arriver, qui sont très intéressantes.
Et des fois, ça peut être aussi par le biais d'une rencontre au préalable, de manière fortuite, pendant un festival, par exemple. Tu peux t'intéresser
pour le choix des personnes.
Pour le choix des personnes.
Ouais.
Et même pour déjà commencer à les connaître un peu.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était un peu les connaissances les plus proches qui ont accepté, parce que je me rappelle très bien, pour le premier épisode avec Pascal Salzar, il a accepté parce que c'était un ami, donc voilà, et qu'il savait pas du tout dans quoi on allait se lancer, il avait aucune idée, alors que les suivants, c'est pas pour diminuer leur mérite, pas loin de là, mais ils avaient au moins l'épisode 1 repère pour
c'est
se dire,
ça
va ressembler à ça, alors que Pascal, il s'est lancé à l'eau en me faisant entièrement confiance, et je le remercie encore, donc c'est vrai que là, en ça, c'est très différent. Après, une fois que l'enregistrement est fait, c'est de ton côté que ça se passe.
Oui.
Alors vas-y, explique-nous.
Alors, je vais pas rentrer dans de la technique qui intéresserait peu de monde, je pense. Moi, c'est déjà beaucoup de réécoute. Et puis après, c'est du ciseau, de la colle. Hein, je coupe, je recolle. Voilà, j'essaie d'ajuster les niveaux au mieux. Et puis après, c'est pas très sorcier non plus, c'est insérer les jingles, les génériques, les choses comme ça. Donc les génériques que j'avais pas créés pour l'occasion, mais c'est des musiques que j'avais faites il y a quelques années, que j'ai réutilisées pour ça. Et puis la petite nouveauté, c'est que depuis plusieurs épisodes, je compose des jingles à usage unique. C'est ces petits jingles qui entrecoupent les parties des épisodes. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça, c'est un exercice nouveau pour moi et c'est très ludique. Donc après, une fois que quelque chose est assez, je pense, esthétique d'un point de vue sonore, je le mets sur Internet, sur un site qui s'appelle PodCloud, qui est un... Alors, quand on veut faire du podcast, il y a toute une série de sites Internet qui proposent des services... ça va du totalement gratuit au payant très cher.
Mais avec des services de communication,
avec des services
où ils font de la publicité,
très différents,
etc.
Voilà. Ouais. Donc là, nous, on a trouvé un... PodCloud, qui est un site avec, comment dire, une démarche plutôt associative. Ils sont vraiment pas chers, ils sont très réactifs quand on a besoin d'eux. Donc ça, c'est quelque chose, moi je suis très content d'avoir trouvé ça.
Alors après, voilà. Tu t'es lancé dans une autre création qui ce qu'on appelle un spin-off.
Oui.
Et moi, j'aime beaucoup que tu aies fait ça. Mmh. C'est-à-dire que tu as créé ce qu'on appelle, ce que nous, on a appelé les capsules de Créodyssée, qui parlent toujours de la création artistique. Mais cette fois-ci, c'est pas concentré sur les acteurs locaux, parce que c'était un peu le projet initial, c'était faire découvrir aussi les acteurs locaux. Mais toi, tu as trouvé autre chose.
Ouais, alors moi, ce qui m'intéressait, c'est aussi de voir... On imagine, quand on crée une œuvre artistique, quelque chose d'un peu systématique. Voilà, on a l'inspiration, on commence à travailler dessus. Voilà, je détaille pas, mais c'est quelque chose d'un petit peu linéaire. Et puis, je sais qu'il existe des œuvres d'art qui ont des processus créatifs, mais qui sortent complètement de l'ordinaire, en fait. Bon, ça m'intéressait de faire une espèce de collection d'œuvres d'art et de thèmes là-dessus. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé, par exemple, la BO du film Ascenseur pour l'échafaud. C'est une musique qui a été quasiment improvisée en regardant un film. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui me fascine complètement. Mmh. Et donc j'essaie de trouver plusieurs œuvres d'art comme ça, qui ont un processus créatif qui sort de l'ordinaire.
Avec un travail de réalisation beaucoup plus poussé.
Oui, parce que c'est pas une interview, c'est quelque chose que j'écris totalement. Mm-hmm. Donc
je scénarise
peut-être, mais en tout cas j'écris tout ce que je dis. Et puis voilà, c'est un travail plus d'exposé que d'interview. Voilà.
Ouais, mais avec plein de musique, plein de sons, etc.
Oui.
Je trouve que c'était vraiment très original, très rafraîchissant. Alors c'est vrai qu'après le timing est pas le même.
Non.
Plus combien de temps ça doit faire, entre 8 et 10 minutes, je crois.
Ouais, peut-être un quart d'heure maximal.
Le choix qu'on a fait, nous, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé sur la ligne d'édition tout à l'heure, mais sur quelle intention on était parti. Donc parler du processus créatif, donc interroger les artistes sur la façon dont ils créent, très concrètement. Donc là, on n'est pas du tout dans justement une inspiration venue du ciel, mais dans les étapes qu'ils suivent. Et on voulait leur laisser surtout le temps de s'exprimer. Donc ça nous fait des épisodes quand même assez longs. Je crois que les plus petits doivent faire 48 minutes, quelque chose comme
ça. C'est ça, ouais, 3 quarts d'heure.
Voilà, et puis les plus longs font 1h16, quelque chose comme ça.
Ouais, 1h15, ouais.
Voilà,
c'est
vrai que c'est très long par rapport au format qu'on peut imaginer pour un podcast. Mmh. C'était risqué. C'est pas quelque chose que je regrette, moi, personnellement, parce que je trouve que, franchement, ça leur laisse le temps, justement, de dire les choses telles qu'ils les vivent.
Alors, pour faire un premier bilan, on a reçu en 18 épisodes, si on a bien compté, 5 musiciens, 8 plasticiens. Plasticiens au sens très large, hein. On a des gens qui font
de la peinture, la sculpture, etc. On a mélangé un peu toutes les catégories.
5 artistes, on va dire, liés au monde de l'écriture. Et puis, ce qui est intéressant, on va y revenir aussi, parmi eux, il y en a à peu près 6 qui ont une activité qui va servir à regrouper les artistes au sein d'un réseau et qui va leur permettre d'organiser leurs activités.
Donc, au final, ça, c'est plutôt satisfaisant parce qu'on a vraiment couvert des situations très différentes.
Oui.
Et même au niveau du nombre de personnes interrogées, donc il y a des interviews où on a une personne, mais on a aussi une interview où on a deux personnes, un groupe, et on est allé jusqu'à l'interview dans un festival où il y avait beaucoup de personnes interrogées. Donc on a un peu exploré les différents niveaux de l'interview. Alors après, concrètement, pourquoi on fait cet épisode, c'est surtout pour parler un peu de ce que nous, on retient de ces différents épisodes. Est-ce qu'il y a des parcours uniques ou des parcours très différents? Est-ce qu'on peut faire des liens entre les personnes qu'on a interrogées? Alors par exemple, sur la première question que je pose tout le temps, sur le rôle de la famille dans le processus artistique, est-ce que finalement la famille, elle a une influence sur le choix de parcours artistique de chez la personne. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire?
C'est évident que la famille a un rôle à jouer quand une personne est encore enfant, on va dire ça comme ça. On voit que très souvent, alors soit dans la famille de ces futurs artistes enfants, très souvent il y a des artistes, on va dire même professionnels, dont c'est l'activité principale. Mm-hmm. Soit c'est des enfants qui voient des parents qui ont une pratique amatrice.
Mm-hmm. Donc c'est un climat familial artistique, on pourrait dire.
Oui, c'est ça, un climat familial. Voilà. Ouais. Et puis une volonté des parents d'éveiller les enfants, de transmettre un goût pour l'art, un goût pour les belles choses.
Et puis,
Et puis de temps en temps, en fait, il n'y a pas ça du tout.
Voilà.
Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Et ce qui remplace, c'est l'école.
Il y a l'école, exactement. Voilà. Oui.
C'est le milieu éducatif classique, ordinaire, entre guillemets, primaire, collège, lycée, où il y a, au travers des enseignements, une approche de l'art. Mais c'est vrai que c'est les moins fréquents qu'on ait pu rencontrer sur 18. On en a compté deux, trois, voilà, qui correspondraient à cette absence d'influence artistique. Après, d'influence artistique familiale.
Familiale, oui,
voilà,
oui.
Juste du cadre étroit de la famille. Au-delà, on a toujours observé, alors, il peut, comme tu dis, soit des artistes, soit une appétence pour le monde artistique.
Et même des fois avec des situations très originales. Je me souviens de l'interview de Steve Grandsir qui disait que ses parents n'étaient pas du tout des artistes ou peut-être même des amateurs d'art. Par contre, ils étaient commerçants et ils voyaient sa maman organiser la vitrine du magasin avec une façon très, très élaborée, très créative. Et il était fasciné de voir ça quand il était petit. Donc ça peut même prendre des formes assez originales.
Voilà. Ouais, et moi, je pense à Maud Gironet avec son grand-père, alors qui est artiste, qui fabrique des papiers peints, mais qui a tout surtout un atelier. Et je pense que c'est plus encore l'atelier qui a marqué Maud dans ses pratiques artistiques, encore plus que le geste transmis, et qui fait un univers qui est fascinant. Et voilà. Non, c'est, il est clair que la transmission a l'air forte en termes qu'elle soit plus ou moins ancrée dans une pratique
c'est
artistique.
C'est ça. Le besoin d'éveil et de transmission est vraiment très important. Et c'est vrai que on fait du podcast, on est artistes nous-mêmes et on est aussi des parents. Et c'est vrai que moi, ça me renvoie à ça. Je pense que c'est important en tant que parent d'éveiller nos enfants à peut-être la pratique, mais même rien que la curiosité par rapport à l'art.
Oui, et c'est par rapport à ça aussi, je me disais que finalement, le milieu éducatif jouait un rôle très important. Parce que là où il peut ne pas y avoir ça, eh bien, l'école ouvre au monde artistique quand même. Et donc, les parcours peuvent se construire aussi par rapport au milieu éducatif. Donc, c'est quelque chose de plutôt rassurant, finalement, quelque part. Oui. La deuxième chose qu'on a regardé, c'était les lieux où ils se formaient. Donc là, c'était intéressant de voir qu'on a pu constater trois profils différents.
C'est ça, on est très académique. Hein. Voilà. Trois parties, trois sous-parties.
On aime bien classer les choses en des catégories.
S'il y a des profs de français qui nous écoutent, on attend les bonnes notes. Hein.
Oui, alors non, mais on a essayé de voir des similitudes dans les épisodes. Ça ne veut pas dire qu'on a raison. Non. C'est ce que nous, on essaie d'y lire. Et donc, on a vu qu'en effet, il y avait donc des profils qu'on qualifierait d'autodidactes, c'est-à-dire ceux qui ont appris sans passer par des écoles, par eux-mêmes. Hein, ils se sont cherchés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas reçu de formation du tout, mais c'est des formations ponctuelles. Ils ne sont pas passés par des écoles type.
Alors, c'est souvent lié à la chanson, des formes d'expression. Alors, je voulais dire des formes d'expression populaire. C'est peut-être un peu péjoratif, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est souvent des gens qui écoutent énormément de choses et qui reproduisent par eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on retrouve ça beaucoup dans la chanson, par exemple.
Dans l'idée de quelque chose qu'on peut créer par soi-même, auquel on pourrait accéder par soi-même. C'est peut-être le média qui fait le plus penser à ça. Après, il y a ceux qui sont passés, au contraire, dans des écoles très classiques. C'est-à-dire, quand je dis classique, dans le sens où c'est l'école exactement qu'il faut faire pour arriver à la pratique artistique.
Voilà, comme un conservatoire, une école d'art, typiquement.
Celle qu'a suivi Benoît Blary pour devenir dessinateur, l'école Saint-Luc, c'est vraiment l'école des dessinateurs en BD, quoi.
Gabriel Philippot au conservatoire, un parcours tout à fait classique dans ce domaine.
Ou Antoine Veyde aux Beaux-Arts, je crois que là, on a vraiment l'idée que ça correspond. Voilà, ça correspond exactement. Et puis, il y a la troisième catégorie, c'est ceux qui sont parfois passés par ces écoles-là classiques et qui ne se sont pas forcément retrouvés dans ces écoles classiques ou qui ont bifurqué vers ce qu'on pourrait appeler des formes d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait leur formation artistique plutôt auprès de maîtres, mentors, autres artistes qui avaient déjà une expérience et qui leur ont transmis cette expérience. Et donc, c'est plus ça qui a compté qu'une école à proprement dit.
C'est ça. Alors, c'est vraiment le terme bifurqué qui est intéressant, je trouve. C'est ça. Ils avaient quand même à la base des billes théoriques fortes, je pense, et déjà une intelligence par rapport à leur pratique qui leur ont fait comprendre qu'en fait, ils étaient dans un milieu qui ne leur correspondait pas et ils avaient besoin peut-être de s'émanciper. Et voilà. Même si des fois, ça peut aller jusqu'à une certaine rupture. ça peut être, je pense que quand on fait des études, qu'on est jeune comme ça, ça peut être un peu violent de, ouais. de se dire, de remettre en question ça. Mais, ouais. Mais ils ont trouvé, dans un deuxième temps, un cadre qui leur a plus correspondu.
Voilà, exactement. On pense à Angélique Jung, par exemple, qui a refusé complètement l'école de Beaux-Arts et qui a préféré faire un apprentissage auprès d'un sculpteur. Et finalement, c'est ça qui l'a amenée à être sculptrice elle-même.
Ouais,
donc, c'était pas un parcours prévu, mais au final, c'est ce qui l'a amenée à sa vocation.
Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir cette variété de parcours de formation, en fait. Pour devenir un artiste, en fait, on peut passer par des chemins très différents.
Ouais, et c'est pas forcément les plus classiques non plus. Qui sont les plus évidents pour chacun, oui. déjà, et les plus efficaces non plus. Et c'est pas forcément non plus des parcours linéaires. C'est-à-dire que voilà, c'est pas parce qu'on décide d'être artiste qu'on va le devenir immédiatement. Des fois, il y a des avancées, régressions, puis hop, on trouve la voie par laquelle ça va se passer. Je pense par exemple à Steve Grandsir, qui est passé par plein d'étapes différentes, mais toutes ces étapes ont compté après par la suite.
Oui, oui,
voilà,
tout à fait.
Ouais. Il a parlé d'un parcours dans le domaine sportif, après il a ouvert un disquaire.
Un magasin de disques.
Et donc, toutes ces étapes lui ont apporté des choses, mais au final, c'était pas du tout ce qu'il va faire par la suite. Alors maintenant, le travail de création. Alors, donc ça, c'est vraiment le cœur du podcast, hein, parce que c'était ça notre objectif.
C'est ce qu'on voulait faire au début, dès le début. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on en retient ?
Ce qu'on en a retenu, c'est des choses très générales, mais qui va, je l'espère, casser un énorme cliché. Le travail de création artistique, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui demande du temps, de la préparation, une certaine technique. Et moi, je trouve ça important de dire ça, parce que ça casse l'idée, le cliché qu'un artiste est un espèce de doux rêveur qui attend que l'inspiration lui tombe du ciel avec l'aide de ses gentilles muses en robe de lin.
Et voilà. Non, qui a une illumination soudaine et qui tout de suite produit dans une espèce d'immédiateté sans rang.
C'est pas ça. Le travail artistique, c'est un travail, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, souvent, et c'est difficile.
Et qui évolue lentement, qui demande beaucoup d'heures passées, en effet, à ça. Et ce qui était assez intéressant de voir, c'est que, en fait, quel que soit le domaine artistique, il y a toujours un travail de préparation mentale. Alors, qui est plus ou moins identifié par les artistes, parce que certains n'y voient pas forcément un moment où ils s'arrêtent pour y penser. Ils le font de toute façon, ils finissent par nous l'expliquer. Mais voilà, il y a vraiment l'idée de, avant de démarrer le geste technique ou le geste artistique, ça dépend comment on veut le qualifier, eh bien, il y a un travail de maturation intellectuelle du projet qui est plus ou moins conscient, qui est nourri de lecture. Alors, il y en a qui parlent de poésie, notamment, qui lisent, je pensais à Gabriel Filippo, il dit qu'il lit de la poésie.
Il lit de la poésie pour
composer
parfois, pour composer sa musique. Ouais.
Voilà. Ouais. Ou alors, de réflexion, on laisse ses pensées aller. Angélique Jung, elle dit qu'elle fait des dessins préparatoires, mais qui ne correspondent pas forcément à ses sculptures.
Oui, qui vont lui permettre de poser un premier jalon vers une sculpture.
Vers une sculpture. Ouais. Donc, il y a tout ce travail invisible, en fait, qui est assez curieux, auquel on ne pense pas, mais voilà, un travail qui se fait d'abord dans la tête, qui n'a pas forcément des formes très précises, mais qui a une idée générale. Puis après, on passe vraiment au travail réel, et là, en effet, c'est un travail qui prend du temps, qui demande beaucoup d'efforts, et qui est parfois assez répétitif.
Oui, oui. Alors, il y a un thème qui est revenu assez souvent pendant les interviews, c'est le terme de boîte à outils, alors qui peut-être plus lié à l'artisanat, mais qui, dans la création artistique, est important aussi.
Qui est un ensemble de techniques,
Un ensemble de techniques, c'est ça.
Et que l'artiste a rassemblé au cours de sa formation.
Et beaucoup d'artistes nous ont parlé de cette idée de boîte à outils. Voilà, j'ai à ma disposition un certain nombre de choses que j'ai apprises et que j'ai développées par moi-même et qui, à partir d'une idée, vont me permettre de la concrétiser.
Ouais, et ils ont en fait, dans leur tête à chaque fois, ils choisissent cette boîte à outils, l'explorent au travers de thèmes. Et c'est assez fascinant parce que finalement, est-ce que ce choix est conscient ou pas conscient, on n'en sait trop rien. Mais en tout cas, ça les amène à retravailler leurs gestes techniques et à aller plus loin dans leur création. Enfin, je pense, alors je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais il y a beaucoup d'artistes qui font des séries, en fait.
Ah oui.
Qui reproduisent des œuvres. Mmh. Et c'est vrai que donc ils vont chercher une technique et ils vont aller la travailler dans plein de formats différents. Et donc là, il y a une sorte de fascination pour la technique et en même temps pour le projet artistique.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est par moments, ils limitent leur boîte à outils énormément. C'est-à-dire qu'ils se créent des contraintes supplémentaires, des fois fortes, dans le but de...
De se stimuler, parce qu'il y en a...
Dans le but de stimuler, voilà, c'est ça, leur création. Donc moi, je repense à Cédric Novak qui disait, voilà, pour une série de tableaux, il se limitait à trois couleurs, le noir, l'or et l'argent. Et il gagne, je trouve, il gagne énormément en force, en cohérence, et c'est très intéressant de se donner des contraintes.
Oui.
Je ne sais plus qui disait aussi... On travaille beaucoup mieux avec un ensemble de contraintes qu'avec une liberté totale. Alors, en fait,
Gabriel Philippot, il en parle de ses contraintes en disant que ça le motive pas mal à travailler.
Et moi, je m'en aperçois. Donc, il m'est arrivé cette année d'organiser des ateliers d'écriture et donc de réfléchir un petit peu, de lire sur le sujet. Et c'est vrai que le fait de se donner des contraintes est quelque chose de très stimulant pour la création. La liberté, c'est pas forcément bien en termes de création artistique.
Alors, je sais pas si ça rejoint la même idée, mais je pensais à Benoît Blary dans le domaine de la BD. Alors, lui, c'est pas les contraintes, mais c'est l'idée de respecter les délais. Alors, ça, c'est aussi intéressant parce que c'est une autre forme de contrainte qui est de la contrainte temporelle. C'est-à-dire ne pas laisser indéfiniment le temps se passer pour faire la création artistique, mais vraiment se régler sur le timing et être obligé d'avoir produit. Et donc ça aussi, c'est une contrainte forte pour un artiste et ça peut limiter, mais ça peut aussi être générateur d'un dynamisme important. Et on le voit, il y en a beaucoup qui sont confrontés aux œuvres de commande.
Oui.
Donc quand ils ont des œuvres de commande, ils sont aussi limités par le temps.
C'est une autre contrainte, oui, tout à fait.
Alors après, on a beaucoup parlé des artistes en eux-mêmes, de leur approche du processus créatif, mais on peut aussi parler de la communication. Alors ça aussi, la communication, c'est un domaine, on a vu, qui était hyper important par rapport au processus artistique, parce que savoir parler de son œuvre, c'est pas un travail facile du tout pour un artiste, c'est un métier à part entière.
C'est même un métier à part entière, c'est ce que beaucoup soulignent, et ce qui est difficile, c'est que c'est une activité qu'ils sont souvent obligés de faire eux-mêmes, alors que c'est pas leur cœur de métier à la base. Et ça, c'est cruel, oui.
Alors, c'est cruel pour certains, pour d'autres, ça pose aucun problème,
ça dépend.
C'est très inégal, et c'est ce qui nous a amené aussi à rencontrer d'autres types de personnes, dans les personnes qu'on a pu interroger, d'autres artistes qui se sont spécialisés dans la communication. C'est le cas, par exemple, d'Anne-Sophie Velli, ou encore de Steve Grandcyr, ou de Gilles Gauthier. Chacun à sa manière, chacun avec son modèle spécifique, mais grâce à eux, on peut dire qu'ils mettent en lumière d'autres artistes. Ils permettent à des artistes de travailler, ils permettent à des artistes de participer à des événements. Finalement, ce sont des intermédiaires qui sont indispensables au bon fonctionnement de certains parcours artistiques.
C'est ça. On parle souvent de l'importance des réseaux. Alors, le terme de réseau peut avoir une connotation un peu péjorative des fois, mais là, c'est pas du tout notre propos. C'est l'idée de mettre en relation les gens, les uns avec les autres, de pas les laisser tout seuls.
Mmh.
Donc ça peut être... Ça peut être aussi le rôle que peut jouer un lieu comme l'hyperespace, par exemple, qui va regrouper plusieurs artistes. Steve Grandcyr nous disait, les artistes qui travaillent à l'hyperespace peuvent tous faire la même chose depuis chez eux. Ils en ont, parce que la plupart, ils ont besoin d'un atelier, d'un peu de place et d'un ordinateur. Mais là, ils préfèrent se regrouper au sein d'un même lieu parce que c'est important pour eux, déjà pour stimuler les idées.
Leur activité.
Et puis, se résoudre les problèmes les uns les autres. Et puis, ils se portent les uns les autres.
Ouais.
C'est ce genre de lieu est très important.
Mais c'est aussi, dans dans ces lieux-là, il y a toujours une personne qui est aussi dans la communication, et qui va être créateur d'événements. Donc, c'est encore plus le cas pour Anne-Sophie Velli avec Maison Vide, où elle crée des festivals, événements dans le cours d'année qui vont permettre de mettre en lumière des artistes. Mmh. Et finalement, elle est ce relais indispensable, où je pense aussi à Lamine, donc un collectif d'artistes aussi qu'on retrouve à Croix-Rouge, et auquel appartient Cédric Novak, et qui sont des lieux dans lesquels, en fait, non seulement les artistes peuvent exposer, mais aussi ils sont intégrés à des événements qui leur permettent de participer à la vie culturelle rémoise. Et ça, ce biais-là, il est indispensable aussi dans la création artistique, parce qu'on ne peut pas créer que pour soi-même, ça n'est pas vrai. On crée aussi pour montrer à un public, et il faut qu'il y ait cet instant qui soit créé. Et en ça, il y a des facilitateurs. Alors, ce que j'appelle des facilitateurs sont des gens qui permettent que ces événements soient créés. Mmh. Alors, c'était le cas, par exemple, de Gilles Gauthier, avec l'association Jazzus. Il est clair qu'il crée des espaces dans lesquels les artistes se rencontrent, et que sans ce festival...
Sunnyside.
Avec le festival Sunnyside, eh bien, ça permet la rencontre d'artistes. Et on peut dire la même chose du Centre de création pour l'enfance avec Mateia Bichiac-Petit, où on a là des poètes qui sont invités en résidence. Mmh. Donc tous ces lieux qui facilitent la création artistique, ils contribuent aussi finalement au parcours de chaque artiste.
Mmh. Et à la vie culturelle du lieu.
Et à la vie culturelle
du lieu. Et d'une certaine manière, à créer des endroits où des gens peuvent venir découvrir des choses. Et on reparle des enfants, notamment, comme on l'a évoqué dès le début.
Ouais, c'est le lien avec le public aussi. Ouais. Alors par contre, ce qui est assez rigolo, c'est la façon dont les artistes nous parlent de leur communication par le biais d'Internet.
Ah oui, c'est Internet, c'est quelque chose d'incontournable, de redouté, de libre, de chronophage. C'est quelque chose qui est terrible, parce qu'ils sont complètement dépendants d'Internet. Ça leur permet énormément de choses, mais c'est un côté aussi presque destructeur.
Ouais. Les réseaux sociaux sont vraiment des lieux d'expression libre et direct avec le public, mais malheureusement, se créer une image d'artiste, en fait, ça dévore le temps disponible, ça peut aussi détruire l'artiste qui finalement est obligé de se plier à des formes un peu particulières d'expression et à réduire sa production artistique pour qu'elle plaise. Donc non, c'est pas... Il y a eu des réactions très différentes.
Il y a de tout, c'est ça. Ouais,
face à ça.
Ouais. Je me souviens d'Amélie McCandless qui disait que certains jours, elle n'a qu'une seule envie, c'est vraiment jeter son... Je ne sais plus comment elle l'a dit exactement,
mais jeter son
portable. Parce que les réseaux la bouffent moralement.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais tous les retours un peu aussi durs qu'il peut y avoir.
Il faut pouvoir les encaisser. Ouais. Voilà. Mais il n'y a pas le choix. On est obligé d'en passer par
là. Lucy Joy aussi, elle en parle de ses retours sur les plateformes qui peuvent être parfois négatifs. Tout à fait. Et la difficulté de s'expliquer, Gladys Bourdon, en tant que plasticienne, donc qui travaille dans un domaine très particulier qui mêle les sciences et le monde artistique, elle disait que oui, en effet, il fallait qu'au départ, son projet soit très précis et bien, sur le plan de la communication, impeccable, pour que les gens puissent comprendre dans quelle direction elle allait, parce que c'est pas un domaine si simple que ça. La matière première sur laquelle elle travaille, ce sont des données scientifiques.
Oui.
Donc il fallait que le public puisse comprendre au premier abord ce qu'elle était en train de faire.
Maintenant, dire un petit mot de la crise du Covid, est-ce que ça a impliqué, et on a vu que là-dessus il y a eu des réactions très différentes d'un artiste à l'autre.
Oui, alors c'est vrai qu'en fait, quand on a commencé notre podcast, c'était juste à la sortie du premier confinement, pas exactement la sortie, c'était 6 mois après. Enfin, on avait l'impression qu'on était encore bien imprégnés, puis il y a eu des passages, des retours en arrière, etc. Ouais. Et les artistes étaient plus ou moins marqués par cette période. Alors, il y en a qui étaient très marqués, angoissés, un peu déprimés par cette période. Et il y avait de quoi, ils avaient perdu toute leur tournée, d'autres ont perdu, n'ont pas réussi à travailler à cause de l'angoisse ambiante. Et puis, vice-versa. On a eu aussi des artistes qui ont été épanouis durant cette période.
Certains,
le retour à soi-même, à ce qu'ils étaient et à ce qu'ils avaient envie de créer, ben, ça leur a, cette sorte de remise au point avec eux-mêmes qui leur a permis de redémarrer sur de nouvelles bases. Donc c'est un vécu très variable de la crise Covid et c'était intéressant d'en parler. Et puis dernier point, ben, je pense que c'est vrai que le fait d'un artiste, il est, bon, il y a des moments où il est seul dans son atelier et puis il y a des moments où il a besoin d'être entouré et de transmettre aussi. Et bon, si on aborde très rapidement l'aspect financier, très difficile pour eux d'en vivre à part entière, si ce n'est en multipliant les activités annexes dans lesquelles ils vont, bah, par exemple, transmettre leur art, donc des ateliers, des cours qu'ils vont donner, d'autres activités parallèles où ils vont donner leur expertise à d'autres personnes pour réaliser des travaux artistiques, ils vont coopérer à des projets pour pouvoir gagner leur vie. Et on voit que ce n'est pas forcément un handicap pour eux de disperser leur activité artistique. Au contraire, ça a l'air de les nourrir, là aussi de faire évoluer leur pratique artistique. Et enfin, ben, y a une question qui était très rigolote, c'est quand on parlait, que j'ai fini par enlever à la fin de la première saison, c'était quand on demandait aux artistes qu'est-ce qu'ils diraient à un jeune artiste qui se met dans le boulot, dans la parcours artistique qu'ils ont choisi. Et bah, on a eu des réponses très émouvantes, de style de Pascal Salzard qui nous disait bah, il faut se faire des amis avant tout. Des amis, pas dans le sens des relations, mais des amis dans le sens des gens qui vont nous soutenir quand ça n'ira pas.
L'importance de ne pas rester seul.
Ouais, voilà, de ne pas rester seul. Et puis, on a eu des réponses lapidaires, mais rigolotes. Hein, voilà,
souvent second degré, oui.
Voilà, souvent second degré, avec fuyer, renoncer. Ouais.
Non, mais c'est au-delà de la blague, ça souligne la difficulté de la vie d'artiste au quotidien. C'est une vie qu'on choisit, mais c'est une vie qui est très difficile la plupart du temps. On a souvent l'image dans les grands médias d'artistes très connus, très épanouis comme ça, mais ça c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Et à côté de ça, il y a beaucoup de passionnés et qui, au jour le jour, ont beaucoup de difficultés pour vraiment s'épanouir dans leur activité.
Qu'on en tire tous les deux de cette expérience, de ces deux saisons. On avait quand même deux saisons, on arrive au bout de la deuxième saison.
C'est beau, hein ?
Voilà, c'est beau. Hein, quand on se lance dans un projet comme ça, on ne sait pas si on va tenir longtemps. Et là, je suis bien fière déjà d'avoir tenu aussi longtemps, deux saisons de Créodyssée. Mmh. Alors, qu'est-ce que toi, tu en retires ?
Moi, j'en retiens, c'est quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment insister là-dessus, c'est que l'art, c'est pas un don. Alors, il y a des gens qui vont avoir peut-être un don, entre guillemets, au départ, peut-être une appétence un peu plus forte que d'autres, mais c'est rien, ça. Le plus important pour moi, c'est le travail, c'est vraiment de se projeter vraiment sur le long terme, de bien préparer les choses en amont, et on voit que moi, je fais partie des gens qui estiment que l'inspiration, ça n'existe pas vraiment, en fait. Ou du moins, pas dans le sens commun. Et créer une œuvre d'art, c'est une démarche, c'est un travail, et c'est beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Mmh. Et puis, alors, dans les choses qui m'ont marqué pendant ces deux années, c'est des personnalités. On a rencontré des personnalités fortes, souvent attachantes. Moi, je vais juste en citer deux. Alors, c'est pas pour exclure les autres. Moi, j'ai trouvé un intérêt dans toutes ces interviews, mais il y a Antoine Veid qui m'a particulièrement marqué par sa vision sur le long terme, par le calme apparent avec lequel il explique comment il crée. Il avait une phrase qui m'a marqué. Il disait, on lui demandait, mais alors quand vous avez une idée de création, qu'est-ce que vous faites? Et il répond, eh ben, je m'assois. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est que il se précipite pas, il prend son temps, il veut avoir le geste sûr, juste. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et l'autre personnalité qui m'avait marqué, c'était Véronique Didier, qui est couturière et qui a associé à son parcours professionnel et artistique une idée très politique par rapport à des choses très fondamentales comme la lutte des classes, même si le terme est un peu vieillot, mais toujours actuel, je pense, par rapport à son combat féministe qui était éclairant, qui était très cruel dans ce qu'elle nous a raconté. Et On parle d'art, on parle de création artistique, mais on voit que ça peut déborder sur plein d'autres sujets.
Mmh. Alors,
et toi, donc Géraldine, oui. qu'est-ce que tu en fais comme, comme bilan sur ces deux
ce
années?
Ce que je fais comme bilan, c'est que là, pour préparer les 7 émissions-là, j'ai réécouté des épisodes et je me suis aperçue qu'en fait, tout me plaisait, en fait. Tout ce qui avait été dit par ces différents artistes me plaisait. Ils ont chacun leur parcours, mais je trouve que là, j'ai le sentiment de ne pas m'être trompée dans ce projet-là, qu'il y avait, toutes ces paroles sont importantes à recueillir. Mmh. Et en ça, je suis très satisfaite, parce que j'espère que les gens qui écoutent ces podcasts ont conscience d'être face à une sorte d'archive de ce qui se passe dans la vie culturelle. Alors peut-être que archive est un mot vieillot là aussi, un peu, ou plutôt décourageant, mais en tout cas c'est une photographie du monde culturel et on voit des parcours très différents se développer avec leur point commun, c'est peut-être la passion qui les anime. Ça c'est clair que la passion, la détermination, le temps finalement qui s'accorde à cette passion sans s'impatienter d'être connu, populaire.
Une passion communicative. Quoi. Oui, enfin, on ressortait des interviews, ça donnait envie. Quoi.
Voilà, à chaque fois, exactement. À chaque fois qu'on ressortait du domaine qui avait été présenté, on était fascinés. Ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, ce que j'ai beaucoup aimé, mais là, c'est peut-être plus anecdotique, c'est tout ce qu'on a fait un petit peu hors clou aussi. C'est-à-dire, quand on a essayé l'interview à trois avec Dreamland, c'est vrai que c'était assez... j'avais un peu peur, j'ai trouvé ça un peu périlleux, puis finalement, ça a été super intéressant. J'avais peur de ne pas laisser de place aux deux artistes présents, en me disant, bah oui, on a toujours un seul artiste en face de nous, mais là, alors deux, il va falloir partager le temps. Et puis, l'expérience sur le festival, où là, ça aussi, pareil, pas simple de présenter un festival, parce qu'il y a tellement d'acteurs différents, et le festival Lire Perché dans l'Arbre, en plus, c'est une histoire d'association entre des gens qui ont envie de faire vivre un village, notamment sur le plan culturel, qui est quand même un pari extraordinaire. Et moi, ça m'a complètement fascinée, tous ces gens qui se liguaient ensemble pour faire naître une vie associative très intense et culturelle. Voilà, c'était une forte expérience d'avoir interrogé tous ces gens la même journée et d'avoir réussi à en faire un épisode qui tienne la route. C'est très très chouette.
Créodyssée va continuer l'année prochaine.
Oui.
Vraisemblablement.
On espère.
Les yeux dans les yeux, on se promet.
Ah, c'est toujours compliqué. Hein, mais bon.
Cette expérience podcast, en fait, l'un comme l'autre, ça nous a donné envie peut-être de diversifier un petit peu. Donc, Géraldine, je sais que tu avais un projet d'un podcast d'un autre type. Tu peux peut-être nous en parler
un
petit peu.
Oui, alors moi, je recycle les vieux projets. Hein, c'est mon principe. Moi, j'aime bien. C'est-à-dire que j'ai toujours, quand il y a des projets qui aboutissent pas, j'ai toujours envie de les reprendre, de les refaire. Et notamment, au travers de l'association La Fabrique à Lecture, on avait lancé, il y a très longtemps, je parle d'il y a 5, 6 ans, 7 ans, on avait lancé un projet qui s'intitulait « Ma bibliothèque et moi », où j'avais enregistré, comme quoi c'était prémonitoire peut-être, hein, ou visionnaire, j'en sais rien, j'avais déjà enregistré des personnes qui parlaient de leur rapport à leur bibliothèque, c'est-à-dire quel lien elles avaient avec les livres qu'elles avaient choisis dans leur bibliothèque, quel lien... familial, personnel, avec chaque livre, le choix des livres, enfin la composition de leur bibliothèque, tout ça me fascine. Ça parle finalement du lien entre les gens et les livres, et ça continue de me fasciner. Et on n'est pas allé au bout de ce projet. En fait, on a fait quelques enregistrements, on a pris quelques photographies avec un ami, des librairies, mais c'était pas satisfaisant. Et je me dis, ben voilà, ça c'est un projet que je pourrais reprendre sous forme de podcast. Voilà, je dirais bien, ça serait chouette. Mmh, voilà, et puis deuxième chose, puis après je te laisse la parole. On a eu deux suggestions de deux invités que j'ai trouvées géniales. Voilà, donc je les remercie. Je pense à Gladys Bourdon qui nous a dit, parce qu'on parlait de l'origine, la fabrique à lecture, puis après l'enregistrement de podcast, et elle m'a dit, mais pourquoi ne pas faire les deux ? Finalement, pourquoi ne pas trouver un lieu où on ferait l'enregistrement du podcast et on repartirait dans l'échange direct avec le public qui serait enregistré et en même temps rajouter l'aspect visuel, parce que ce qui est un peu frustrant dans nos podcasts, c'est qu'on parle d'artistes qui font des œuvres, mais on ne montre pas les œuvres. Alors on en renvoie un sous-texte où il y a les œuvres, mais on ne peut pas les voir. Donc là, ce serait l'idée de faire tout en même temps. Alors c'est sans doute risqué de faire des projets comme ça. Et il y avait un autre artiste qui, Agathe Seb, qui est venue pour, en tant qu'éditrice et qui nous a dit mais pourquoi ne pas aussi enregistrer des événements. Donc venir sur des lieux où il y a des événements qui seraient organisés par exemple par eux parce qu'ils ont un lieu spécifique et donc faire un compte-rendu de ces événements, un peu comme une radio le ferait finalement, mais sauf que nous on se concentrera toujours sur le même thème, processus créatif. Voilà. À toi, Eric. Ouais, alors, donc tes projets
alors,
à toi.
C'est vrai que moi, le mes projets podcast, le reste on s'en fout.
Il faudrait un autre podcast
pour ça. Projet podcast. Alors oui, c'est vrai que d'avoir mis un pied là-dedans, ça m'a donné plusieurs envies, dont une en particulier c'est quelque chose que j'ai envie d'appeler un pote, un album. L'idée, ça serait de parler avec un ami, un membre de ma famille, enfin quelqu'un de proche, voilà, c'est vraiment de me faire mon petit plaisir à moi, et qui vient nous parler d'un album de musique qu'il aime particulièrement. Alors, pas dans une démarche technique d'analyse de l'harmonie, de machin, des arrangements, mais vraiment de dire, voilà, pourquoi cet album, tu l'aimes, comment tu l'as découvert, qui te l'a fait découvrir, parce que je trouve que le support album en termes de musique, c'est quelque chose qui est en train de plus ou moins disparaître, mais c'est quelque chose que moi je trouvais, que je trouve toujours d'ailleurs, très intéressant, parce que c'est, voilà, ça forme un tout. Et avant les réseaux, on va parler du XXe siècle, hein, qu'on a un petit peu connu, on se faisait découvrir la musique comme ça, c'est-à-dire qu'on parlait d'albums, on parlait de dans les cours d'école,
le
bouche à oreille était très important, et j'aimerais bien recréer quelque chose d'un petit peu approchant. On verra peut-être à partir de la rentrée prochaine.
En tout cas, je suis très contente qu'on ait fait cet épisode. Alors là, on est en libre, hein, on n'a pas de notes ou très peu, on a juste un sommaire sous les yeux. Et donc c'est une drôle d'expérience de parler comme ça. En plus, je pense que ça peut vous apporter des billes pour comprendre un peu mieux d'où on vient, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on en tire. Et puis ça fait plusieurs épisodes que j'arrête pas de l'annoncer, celui-là, en disant on va réfléchir à ce qu'on en retient. Ça y est, on l'a fait, donc ça je suis très contente. Et puis j'ai envie de vous dire continuez à nous suivre, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les plateformes parce que ça aide bien quand même, ou alors au moins des avis pas trop négatifs. Voilà, parce que nous ça nous motive à continuer notre projet. Et puis, prenez bien soin de vous et puis restez curieux. Thank you.